Donc le thème, c'est les obstacles à l'accueil de l'évangile par les musulmans. Je vais essayer de montrer qu'est-ce qui empêche les musulmans d'accéder et d'accueillir l'évangile. Alors, il va y avoir deux parties à mon petit exposé. Les obstacles du côté musulman et les obstacles du côté chrétien, ce qu'on ne perçoit pas toujours. Hein. Donc voilà. Alors, nous commençons par les obstacles du côté musulman. D'abord, il y a des aspects doctrinaux et des aspects sociaux. Je commence par les aspects doctrinaux. Excusez-moi pour les citations du Coran, je ne me suis pas donné la peine de les recopier, je vais dans mon livre directement. Vous savez, tous les jours, à 5 reprises dans la journée, donc 5 fois par jour, vous le savez sûrement, les musulmans doivent réciter une courte prière, hein, les 5 prières rituelles, sans parler de la grande prière du vendredi à la mosquée. Alors, dans ces prières, 5 fois par jour, les musulmans récitent ce qu'on appelle la sourate d'ouverture du Coran. C'est la fatiha qui veut dire en arabe ouverture. La prière en question a 7 versets très courts qui se terminent comme ceci. Ça va bien introduire le sujet. Donc je cite, c'est le musulman qui s'adresse à Dieu. Dirige-nous, demande le musulman à Dieu, dirige-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère, ni celui des égarés. Alors, ce que tu as comblé de bienfaits, il va de soi que ce sont les musulmans, mais vous l'avez compris. Le chemin de ceux qui encourent ta colère, ce sont les juifs. Donc, il ne faut pas imiter, ne pas être tenté par le judaïsme, si vous voulez. Et le chemin des égarés, ce sont les chrétiens. Alors, je vais expliquer pourquoi nous sommes des égarés aux yeux de l'islam. En fait, les accusations contre la doctrine chrétienne dans le Coran sont très nombreuses et elles visent l'essentiel de la foi chrétienne. Et donc c'est ça qui est considéré par le Coran comme des égarements, d'accord, des doctrines erronées, déviantes. Alors, parmi ces accusations, bien sûr, la plus importante, mais je suis sûre que vous le savez, c'est la foi en un Dieu trinitaire. La Trinité est non seulement une aberration, mais un scandale pour les musulmans. Le Dieu du Coran, c'est un Dieu un et seulement un. Alors, pour les musulmans, l'idée que les chrétiens croient en un Dieu trinitaire, c'est considéré soit comme du polythéisme, mais le terme exact qui est utilisé dans le Coran, c'est associationnisme. C'est le fait d'associer au Dieu un, oui, ne pas confondre une parenthèse, un, le Dieu un et le Dieu unique. Nous adorons un Dieu unique, les musulmans aussi, mais ce Dieu unique, du point de vue musulman, il est un et seulement un. Pour nous, le Dieu unique est un et trine à la fois. Bon. Alors, pour le Coran, la Trinité, donc c'est l'associationnisme qui revient à associer au Dieu un deux autres divinités. Aïssa, l'équivalent de Jésus, mais comme l'a dit Lina, ce n'est pas le même. Et le nom de Aïssa dans le Coran est dépourvu de toute signification. Ce n'est pas Dieu sauve. Enfin voilà, donc ça, c'est ce que croient les musulmans. Et puis, le troisième personnage de cette trinité, c'est ambigu, Marie ou pas, on ne sait pas trop. Il faut savoir que du point de vue musulman, le Dieu un, ne peut pas engendrer. Donc, il ne peut pas avoir de fils. Et s'il a un fils, comme les chrétiens le croient, ça veut dire qu'il a besoin d'une femme, enfin d'une compagne. Voyez, donc n'oubliez pas non plus que la génération dans l'islam, elle est biologique et non pas spirituelle. Hein. Et d'ailleurs, nous disons bien dans le credo, Jésus engendré, non pas créé. C'est bien la preuve que Jésus vient de l'être même de Dieu et qu'il est lui-même Dieu. Voilà le plus grand reproche que le Coran adresse à Jésus. Au sujet de l'associationnisme, je vais vous lire un verset très éloquent dans le Coran. Enfin, je vous dis en fait 3 ou 4 versets qui se réfèrent à cette question de la Trinité. C'est Dieu qui parle aux gens du livre. Les gens du livre, dans la doctrine musulmane, ce sont en fait les juifs et les chrétiens. Ne dépassez pas la mesure dans votre religion. Ne dites sur Dieu que la vérité. Là, maintenant, c'est directement les chrétiens qui sont visés. Ne dites pas trois avec un T majuscule, les trois personnes divines. Ne dites pas trois, cessez de le faire, ce sera mieux pour vous. C'est la sourate 4, verset 171. Et puis celui-ci. Oui, ceux qui disent, deux points, Dieu est en vérité le troisième de trois, c'est Jésus, sont des impies. Il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique, unique dans le sens de un. Sourate 5, verset 73. Et enfin, Dieu dit, ô Jésus, fils de Marie, c'est Dieu qui interpelle Jésus, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez moi et ma mère pour deux divinités en dessous de Dieu? Sourate 5, verset 116. Vous voyez, là, le Coran intègre Marie dans la Trinité. Alors, évidemment, c'est, pour les musulmans, c'est absolument inacceptable. Et ça nous fait rejoindre l'identité et la vocation de Jésus telle qu'elle est perçue dans le Coran. Donc, pour le Coran, Jésus, Aïssa, il vaut mieux dire Aïssa, ben, vous comprenez, hein, comme l'a dit Lina, c'est un mot, un nom dépourvu de sens. Ce n'est pas Yassou ou Yeshua, Dieu sauve. Alors, Aïssa n'est qu'un prophète, sourate 5, verset 75, et qu'une créature humaine. Je cite le Coran. Oui, il en est de Jésus comme d'Adam auprès de Dieu. Dieu l'a créé de terre, puis il lui a dit, sois et il est. 3, 59. Vous voyez, c'est le même processus. Quand Dieu décide de créer Aïssa, il procède de la même manière que ce qu'il avait fait pour Adam. Et ensuite, Dieu est unique, gloire à lui, comment aurait-il un fils ? 4, 171. Ils, ce sont les chrétiens, ils ont attribué un fils au miséricordieux. Miséricordieux, vous le savez, c'est un attribut de Dieu dans le Coran. Le verset continue. Il ne convient pas au miséricordieux de se donner un fils. Sourate 19, verset 91. Et puis, ceux qui disent « Dieu est en vérité le Messie, fils de Marie » sont des impies. Je vous l'ai déjà cité, pardon. Puis les chrétiens ont dit « Le Messie est fils de Dieu ». Le mot « Messie » c'est parfois repris dans le Coran comme synonyme du nom de Aïssa, mais il n'a pas la notion chrétienne du messianisme. C'est un titre d'honneur, tout simplement. Alors, les chrétiens ont dit « Le Messie est fils de Dieu ». Telle est la parole qui sort de leur bouche. Ils répètent ce que les incrédules disaient avant eux. Et la dernière partie du verset est terrible. Que Dieu les anéantisse, c'est nous, hein. Ils sont tellement stupides. 9, 30. Voilà, pour ça. Dont une réfutation en bonne et due forme de la croyance en un Dieu trinitaire. Je dois compléter en disant ceci, c'est que ce que j'ai mentionné comme l'associationnisme, donc le fait d'associer au Dieu un deux autres divinités, pour le Coran, c'est le seul péché que Dieu, je dis bien que Dieu, ne s'autorise pas à pardonner. Voyez. Donc, finalement, le Coran interdit à Dieu certains actes. C'est incroyable tout de même. Voilà ce qu'il dit. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il pardonne à qui il veut des péchés moins graves que celui-ci. Celui qui associe quoi que ce soit à Dieu commet un crime immense. 4,48. Il en résulte que les chrétiens, du point de vue musulman, se trouvent du côté des perdants. Dans l'islam, on gagne ou on perd. Alors évidemment, si on veut gagner, on comprend bien qu'on s'oppose au christianisme, puisque c'est la religion de la victoire, de la domination, c'est l'islam. Ouais, ça c'est un obstacle évidemment très très important du point de vue doctrinal. Et puis il y a aussi le statut que le Coran donne à Mahomet. Mahomet, pour les musulmans, c'est le dernier prophète. Et puis en plus, le Coran dit que Jésus, qui était un prophète, est venu, un prophète est seulement prophète, bien sûr, en aucun cas fils de Dieu, que Jésus est venu annoncer Mahomet. Je vous cite le verset. Jésus, fils de Marie, dit, il s'adresse aux juifs. Ô fils d'Israël, je suis en vérité le prophète de Dieu envoyé vers vous pour vous annoncer la bonne nouvelle d'un prophète qui viendra après moi et le nom sera Ahmed. 61:6. Le nom Ahmed signifie celui qui est loué, digne de louange si vous voulez. Oui, c'est quand même incroyable de voir que dans le Coran, Jésus est venu annoncer un autre prophète après lui. En l'occurrence, Jésus. Alors, pour l'anecdote, certains auteurs musulmans ont écrit des textes là-dessus, ont essayé de comprendre, et ils en ont déduit que les chrétiens n'auraient pas compris le sens du mot paraclet, nous savons que c'est l'Esprit Saint, et que, en fait, le mot paraclet signifierait Mahomet. Voilà. Alors, donc là aussi, il y a une méfiance envers la doctrine chrétienne. On a vu hein, que tout à l'heure, nous sommes qualifiés de stupides, que Dieu les anéantisse, nous anéantisse. Voilà. Alors ça, c'est donc un point doctrinal fondamental, bien sûr. Le Coran, les musulmans, plutôt d'après le Coran, considèrent que l'Évangile est un livre falsifié. Je reprends la logique telle qu'elle est envisagée dans le Coran. Du point de vue musulman, Dieu a toujours parlé aux hommes à travers un écrit, une dictée, si vous voulez. Alors, il y a eu d'abord, à travers trois prophètes, tels qu'ils sont vus par les musulmans. Moïse, prophète, est venu apporter de la part de Dieu un livre aux Juifs, c'est la Torah. Ensuite, le Coran estime que les Juifs ont falsifié la Torah, d'où la colère mentionnée dans la Fatiha, comme je l'ai dit. Hein. Dieu envoie un autre prophète, Jésus, Aïssa plutôt, avec un livre qui est censé rectifier les erreurs introduites par les Juifs dans la Torah. Ce livre, c'est l'Évangile, et je dis bien l'Évangile au singulier, parce que le fait que l'Église ait reconnu quatre évangiles canoniques accrédite aux yeux des musulmans l'idée que les chrétiens ont à leur tour falsifié l'Évangile. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut parler que d'une seule manière. Comment peut-il y avoir quatre récits différents, avec des variantes, certains évangélistes qui ont retenu tel ou tel aspect de la vie de Jésus, tout ça. Donc c'est incompatible avec, là aussi, l'unicité du livre de Dieu. On est toujours dans l'unicité, retenez bien ce terme, la pluralité égale fausseté. Et donc, parce que les chrétiens sont accusés d'avoir falsifié l'Évangile en introduisant notamment la Trinité, hein, la divinité de Jésus-Christ et d'autres choses encore, je vais dire encore un mot, que Dieu a envoyé un autre prophète qui sera le dernier. Le Coran l'appelle le sceau des prophètes, celui qui scelle la prophétie. Donc, en l'occurrence, Mahomet avec le Coran qui est le livre qui, ayant prévalu de toute éternité auprès de Dieu, il vient de l'être même de Dieu, il est consubstantiel à Dieu, donc c'est lui seul qui est crédible, son texte même. Alors, au passage, je voudrais dire une chose qu'on ne connaît pas forcément chez les chrétiens, c'est que certains musulmans, c'est une idée qui semble se répandre, accusent Saint Paul d'être le grand falsificateur. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est Saint Paul, le malheureux, qui aurait falsifié l'Évangile. Pourquoi ? Alors, on explique. Parce qu'il vient de Tarse, hein, en Asie mineure, la Turquie d'aujourd'hui. Et il était juif, ça, nous le savons. Mais il vivait dans un... son enfance s'est passée dans un territoire où il y avait de nombreuses divinités. Donc, il aurait pu être influencé par ces divinités pour inventer la Trinité. C'est lui aussi, Saint Paul, qui aurait inventé l'Église, le sacerdoce, les sacrements, etc. Je vais vous citer un passage intéressant d'un auteur musulman à ce sujet, ça vous permettra de mieux comprendre, je pense. Voilà, c'est le père de l'actuel recteur de la Grande Mosquée de Paris. Le recteur actuel, c'est Dalil Boubaker. Son père s'appelait Si Hamza Boubaker. Il a écrit un traité moderne, c'est récent, non ? Traité moderne de théologie islamique, paru en 1993. Voilà ce qu'il dit. La métamorphose du christianisme, donc la falsification, s'est réalisée grâce aux écrits et au prosélytisme de Paul, celui-là même qu'on avait naguère accusé de duplicité. C'est donc après une transformation interne de la doctrine de Jésus, devenue doctrine paulinienne, la doctrine de Jésus sous-entendu l'unicité divine, bien sûr, toujours, devenue doctrine paulinienne, c'est donc après, que les évangiles, qui normalement auraient dû la précéder, ont pu être composés, soit plus de trois quarts de siècle après le rappel du Christ à Dieu. Voilà. Voilà pour Saint Paul. Alors, retenons que au Xe siècle, des dispositions ont été prises par les premiers califes de l'histoire de l'islam. Ça se passait en Mésopotamie. Un dogme a été fixé, et ce dogme prévaut toujours jusqu'à aujourd'hui. C'est le dogme du Coran incréé. Incréé, ça veut dire il y a seul Dieu est l'auteur, le Dieu un, bien sûr, toujours, de ce livre. En aucun cas, les hommes ont un rôle, ont joué un rôle dans la conception, dans l'écriture du Coran. Et pour accréditer cette idée, les musulmans, enfin, la tradition musulmane dit que Mahomet était illettré. Vous voyez, alors comme ça, il était vraiment un transmetteur fidèle. Il n'a rien touché au livre. Ça préserve donc l'islam de toute altération, de ces altérations ou falsifications dont le Coran accuse les juifs et les chrétiens. Alors aujourd'hui, cela dit, il y a des recherches savantes qui sont faites et qui montrent que, en fait, Mahomet n'était pas illettré. Mais bon, on ne sait même pas si vraiment Mahomet a existé non plus. Hein. Mais il n'empêche que, au Xe siècle, après de nombreuses discussions entre les pour et les contre, ceux qui voulaient qu'on déclarât le Coran incréé et les autres qui estimaient qu'il faudrait plus ou moins emprunter la doctrine de l'Église, c'est-à-dire faire du Coran un livre inspiré, donc en partenariat entre Dieu et les hommes, hein, comme nous l'avons dans l'Église, la Bible est un recueil plutôt de livres inspirés. C'est pas une dictée tombée du ciel. Je pense que vous le savez. Bon, alors après bien des débats et des émeutes aussi contre le calife Mamoun au IXe siècle, là, qui était favorable à la doctrine du Coran créé, eh bien, son successeur, Mutawakkil, a déclaré le dogme, pardon, du Coran incréé. Et depuis lors, personne n'a été en mesure de revenir sur ce dogme. C'est un dogme, hein, fondamental. Et en plus, le calife aussi, au Xe siècle, a pris une disposition qui est très grave de conséquences. Il a fermé, dans le jargon musulman, c'est ceci, il a fermé la porte de l'ijtihad. Le mot ijtihad veut dire interprétation après réflexion, innovatrice, vous voyez. Et alors, ben, maintenant, si vous voulez, nous avons affaire à une pensée verrouillée depuis le Xe siècle. Ce qui prive les musulmans, et c'est très important, de libre arbitre, voyez, et de possibilité de procéder à des examens critiques en recourant à toutes les sciences que l'on applique à la Bible, d'ailleurs avec l'accord, même l'encouragement de l'Église. Et voilà, tout ça, tout ce contexte-là, voyez, ce que je viens de décrire, eh bien, engendre de la méfiance des musulmans envers la Bible et envers le christianisme. Et on en retrouve aussi la trace dans le Coran. Je vais vous donner deux exemples. Pardon. Voilà. C'est Dieu qui parle. Alors là, il s'adresse en fait aux... il s'adresse aux juifs et aux chrétiens, aux gens du livre. Alors, Dieu dicte à Mahomet ou aux musulmans, « Ô gens du livre, pourquoi détournez-vous le croyant ?» Alors, dans le Coran, il faut bien le savoir, le mot « croyant » n'est réservé qu'aux musulmans. Hein. Aux yeux des musulmans, nous ne sommes pas des croyants. « Ô gens du livre, pourquoi détournez-vous le croyant de la voix de Dieu et voudriez-vous la rendre tortueuse alors que vous êtes des témoins ? Dieu n'est pas inattentif à ce que vous faites. Ô vous, musulmans qui croyez, si vous obéissez à certains de ceux qui ont reçu le livre, juifs et chrétiens, ils vous rendront incrédules après que vous aurez eu la foi. » Sourate 3, versets 99 et 100. Et puis, alors là, il y a une chose intéressante à montrer. Souvent, dans le dialogue avec les musulmans, ils nous disent « Mais nous avons le verset de l'amitié dans le Coran. » Eh bien, ça, c'est un piège. Je vais vous expliquer. Nous sommes là dans la sourate 5, verset 82. Dieu dit aux musulmans, tu constateras, fais voir Mahomet, tu constateras que les hommes les plus proches des croyants, donc les musulmans, les plus proches par l'amitié, sont ceux qui disent, oui, nous sommes chrétiens, parce qu'on trouve parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Sourate 5, verset 82. Alors, bon, c'est très bien. Si on en restait là, ça serait pas mal. Le problème, c'est que les musulmans qui nous citent ce verset pour vanter l'amitié qu'ils doivent avoir pour les chrétiens, ils ne peuvent pas le détacher de celui qui suit immédiatement, qui est donc le verset 83 de la sourate 5. Alors, la conséquence du premier que je viens de lire, c'est la suivante. Tu vois leurs yeux débordés de larmes, c'est les moines et les chrétiens en général. Tu vois leurs yeux débordés de larmes lorsqu'ils entendent ce qui est révélé au prophète, donc Mahomet, à cause de la vérité qu'ils reconnaissent en lui. Ils disent, les chrétiens, ils disent « Notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi les témoins. » 5:83. Donc, on est digne d'amitié, si on suit ce verset, que si on accepte l'islam et qu'on se reconnaît musulman et qu'on demande donc à être inscrit dans la religion musulmane. Vous voyez, alors ce verset de l'amitié, il est piégé, n'oubliez pas, si un jour vous assistez à des débats, je vous invite à courtoisement, mais quand même, à faire préciser aux musulmans qui le citent ce qu'ils entendent exactement par là. Il y a autre chose. Voilà, alors Dieu dit aux gens du livre, s'ils veulent être tranquilles, aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Nous n'adorons que Dieu, nous ne lui associons rien, nul parmi nous ne se donne de Seigneur en dehors de Dieu. De Seigneur en dehors de Dieu, vous avez compris que c'est Jésus. Sourate 3, verset 64. Mais il y a aussi des prolongements dans l'ordre de la vie. J'ai évoqué le verset de l'amitié, mais vous voyez, il est contredit par celui-ci, qui est très grave. Je cite aussi. Dieu dit aux musulmans, « Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens. Ils sont amis entre eux. Celui qui parmi vous les prend pour amis devient l'un des leurs. » Sourate 5, verset 51. C'est dur, c'est vrai, mais il faut connaître ça. Vous voyez, tout est fait pour inspirer la méfiance des musulmans envers les chrétiens. Et puis, il y a cette affirmation aussi concernant le lien avec Abraham. Les musulmans disent qu'ils sont, se qualifient volontiers comme descendants d'Abraham. Et aujourd'hui, nous avons des formulations erronées, mais je vais y revenir. Quand nous disons les trois religions abrahamiques, il faut faire attention parce que l'Abraham du Coran, c'est pas tout à fait le même que l'Abraham de la Bible. Dans le Coran, il n'y a pas l'alliance de Dieu avec l'humanité à travers Abraham, d'accord ? Et puis, le Coran affirme ceci de manière évidente, si vous voulez. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était un vrai croyant soumis à Dieu. Musulman égale soumis à Dieu, vous savez. Il n'était pas au nombre des polythéistes. Sourate 3, verset 67. Voilà, pour ça. Donc, j'ai essayé de montrer, du moins, que les écritures musulmanes, avec tout leur contenu, dirigées essentiellement contre la révélation chrétienne, eh bien, ne peuvent inspirer aux musulmans que de la méfiance, de la suspicion, et ça n'invite pas naturellement les musulmans à aller ouvrir la Bible. D'ailleurs, en principe, la distribution de Bible est interdite dans beaucoup de pays musulmans, pas au Liban, bien sûr. Il y a des pays libres. Il y a des musulmans aussi, n'oublions pas, qui arrivent à se procurer des Bibles parce qu'ils le désirent. Mais par exemple, dans un pays comme l'Algérie, distribuer des Bibles de la part d'un chrétien, c'est un délit. D'accord ? C'est donc passible d'une sentence pénale. Alors, à côté des éléments, des obstacles doctrinaux, il y a des obstacles sociaux qui freinent l'intérêt que pourraient avoir des musulmans pour le christianisme. Il y a bien entendu l'absence de liberté de conscience. Un musulman, il considère qu'il est musulman parce qu'il est né musulman. D'ailleurs, récemment, je discutais avec une musulmane, et c'était pas très aimable comme conversation, je le regrette, mais enfin, c'est ainsi. Elle m'a dit, pour me contredire, « Mais tu oublies que tu es musulmane, tu es né musulmane. » Voilà, parce que le Coran dit que tout être humain qui vient au monde est musulman, c'est la religion que Dieu a voulu pour la nature de l'homme. Donc, on est musulman, il n'est pas possible de renoncer à cette religion de la nature qui a été voulue par Dieu, bien sûr. Et alors, le Coran en parle avec cette prescription. Celui qui choisit une autre religion que l'islam, cela ne sera pas agréé par Allah. Tiens, entre parenthèses, si vous allez en Terre Sainte ou si vous y êtes déjà allé, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à Nazareth, sans doute, quand on fait un pèlerinage, on va à Nazareth. Bon, il y a la grande basilique de l'Annonciation, et je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y a 10 ou 15 ans, il y avait eu une affaire qui avait fait grand bruit. Les musulmans de Nazareth avaient déposé un permis de construire une mosquée juste à côté de la basilique. C'était une époque préélectorale. Nazareth est dans l'État d'Israël. Les autorités israéliennes avaient donné le permis de construire. Seulement, quand même, c'était une provocation, bien entendu, juste à côté de la basilique. Alors, des démarches ont été faites par le Vatican, bien sûr, mais aussi le chef politique des Palestiniens de l'époque, il est décédé maintenant, vous savez, Yasser Arafat, qui a pensé que vraiment ça allait semer trop de troubles que d'accepter la construction de cette mosquée. Alors, finalement, la Cour suprême a décidé qu'il ne fallait pas Cour suprême israélienne, qu'il ne fallait pas construire cette mosquée à côté d'un lieu saint si important pour les chrétiens. Mais, à côté de la basilique, il y a le terrain sur lequel il était envisagé de construire la mosquée. Le terrain appartient aux musulmans, il est toujours à eux. Et moi, je suis allée plusieurs fois là-bas, mais les dernières fois où j'y suis allée, j'ai repéré sur le terrain, où on m'a dit d'ailleurs que tous les vendredis, des musulmans viennent faire leurs prières, un grand panneau avec ce verset que je viens de vous citer. Celui qui choisit une autre religion que l'islam, cela ne sera pas agréé par Allah, voyez. Alors, c'est quand même une provocation. Bon. La sanction, bien sûr, qui s'applique à ceux qui refusent d'être musulmans, c'est l'enfer, évidemment. Alors, le Coran ne prévoit pas de peine temporelle pour celui qui renonce à l'islam. Mais comme toujours dans le Coran, dans l'islam, si vous voulez, quand le côté législatif n'est pas suffisamment précis ou même inexistant dans le Coran, on se réfère à la sunna. La sunna, hein, S-U-N-A, veut dire tradition. C'est en fait, Lina en a parlé, des hadiths, ce sont des récits qui reprennent tout ce que Mahomet, toutes les attitudes de Mahomet en telle ou telle circonstance. On raconte les circonstances et on décrit qu'est-ce que Mahomet a fait, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, parce que les silences sont également normatifs. Et à partir de là, eh bien, on peut élaborer une loi qui s'inscrira dans le corpus de la charia, la loi islamique. Alors, du point de vue juridique, la sunna complète et éclaire le Coran à ce qui lui manque, hein, du point de vue juridique, pas du point de vue dogmatique. Eh bien, alors, dans la sunna, nous avons cette phrase attribuée à Mahomet, qui aurait dit à ses compagnons, « Celui qui quitte la religion, tuez-le. » Voilà. Alors, celui qui quitte la religion, tuez-le, bien entendu. Eh bien, ça inspire dans certains pays l'inscription dans le droit de la peine capitale pour celui qui renonce à l'islam, enfin, au moins publiquement. Alors, renoncer à l'islam dans cette religion est assimilé à un crime, donc le plus haut degré dans le droit pénal. C'est un crime qu'on appelle la RIDA, R-I-D-D-A. Ce mot a deux significations conjointes. Il est à la fois le fait de renoncer à sa religion, à l'islam, d'accord, mais aussi le fait de trahir la communauté des musulmans, qui est l'Oumma, vous connaissez le mot, je suppose, O-U-2-M-A. Et donc, c'est vraiment très grave. Et alors, si le droit n'indique pas la peine de mort pour celui qui est coupable de RIDA, il peut quand même subir des sanctions de ses proches. Il peut perdre son emploi. Il peut être même tué par sa propre famille ou alors chassé de son milieu. Et c'est donc très, très difficile de quitter l'islam quand on est musulman et surtout quand on vit dans un milieu à majorité ou entièrement musulman. On est sous la pression de l'Oumma. L'Oumma, c'est, du point de vue musulman, c'est ce que j'aime à qualifier de la matrie, parce que le mot Oumma a pour racine Oum, qui veut dire mère ou matrice. Donc c'est la matrie qui fait les frères. On est frères à l'intérieur de l'Oumma, voyez. Et donc on est sous surveillance permanente, c'est très lourd de conséquences. Dans l'Oumma, il n'y a ni liberté, ni responsabilité. Alors, vous savez, pour terminer ce point-là de la liberté de conscience, tout à l'heure, je crois que Lina a parlé de l'organisation de la coopération islamique qui est composée de 57 États. Oui, ce qu'elle a dit, c'est que l'organisation de la coopération islamique est à un siège à l'ONU, donc c'est un organisme officiel reconnu internationalement. Eh bien, cet organisme, en 1990, a publié une charte universelle des droits de l'homme dans l'islam. pour montrer que les musulmans aussi sont attachés au respect des droits de l'homme. Voyez, qu'est-ce qu'on lit dans cette charte? Que l'islam étant la religion naturelle de l'homme, il n'y a aucune raison pour les musulmans d'y renoncer. Voyez. Alors, donc c'est pourquoi on ne respecte absolument pas la liberté de conscience dans l'islam. Tout à l'heure, Lina a aussi parlé de Joseph Fadel. On connaît son histoire. Et tant d'autres aussi. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Nahed Metwali aussi, l'Égyptienne devenue chrétienne et qui a failli être tuée par sa propre famille. Bon, elle s'est réfugiée aux Pays-Bas et puis ensuite elle a rejoint le prêtre copte qui l'a baptisé, le père Zakaria Boutros, qui a fondé une chaîne de télévision aux États-Unis, Gloria TV, et tous les deux donc évangélisent les musulmans. Ça c'est très intéressant et c'est vraiment fécond comme démarche, parce que bien sûr le père Zakaria Boutros et Nahed Metwali connaissent l'arabe excellemment bien, le Coran par cœur, ils ont été éduqués dans la proximité, Nahed comme ancienne musulmane. Et ils ont l'art de débusquer les contradictions, les incohérences. Vous voyez, ils s'adressent à l'intelligence et à la réflexion des musulmans et à distance, et ça porte beaucoup de fruits. Il semble qu'il y ait beaucoup de conversions de musulmans en Égypte. Je pourrais citer d'autres exemples. J'ai même quelques amis très proches au Maghreb qui font ce genre de démarche aussi, des musulmans devenus chrétiens et qui se sont lancés dans l'évangélisation des musulmans par Internet, et justement en recourant à l'intelligence, à la réflexion. Voilà, j'ai évoqué les obstacles du côté musulman, mais malheureusement, c'est quand même étrange, en fait, c'est qu'il y a bien des obstacles du côté chrétien qui empêchent les musulmans non seulement d'accéder, mais d'accueillir l'Évangile. Bon, alors, donc j'en énumère quelques-uns. Depuis une cinquantaine d'années, vous savez bien, en Europe et en France en particulier, nous sommes dans le règne des confusions, les confusions qui ont pénétré non seulement la société, mais aussi une partie de l'Église et donc des chrétiens, d'où l'acceptation de formulations erronées qui accréditent l'idée que l'islam serait apparenté au christianisme. On imagine que l'islam est une religion biblique. L'islam, je le dis et redis, l'islam n'est pas une religion biblique. Il emprunte à la Bible certains aspects, certains personnages, mais en les déformant pour les inscrire dans une logique qui n'est pas la logique, une perspective plutôt, qui n'est pas celle du christianisme. Il n'y a pas le salut au bout du compte, hein. Alors, donc, ces formulations, ben, on a par exemple les trois religions monothéistes, les trois religions abrahamiques, les trois religions du livre. Concernant les trois religions du livre, l'Église a fait une mise au point très claire. Je vous renvoie au catéchisme de l'Église catholique, au numéro 108, où il est dit, enfin, je cite là comme ça de mémoire, il est dit que le christianisme n'est pas la religion du livre. Nous sommes les croyants d'une personne, notre Seigneur Jésus-Christ, une personne vivante, donc, et non pas les fidèles d'un livre écrit et muet, d'un livre écrit et muet. C'est une phrase qui est empruntée à Saint Bernard, voyez, que le catéchisme a donc reprise. Autre phénomène de notre époque, c'est la doctrine de l'enfouissement. Alors voilà, on attribue à Charles de Foucault cette doctrine. C'est vrai que Charles de Foucault avait développé pour lui, l'enfouissement. Il voulait être le dernier des derniers, etc. Il vivait dans la plus grande humilité, notamment en Algérie, et d'ailleurs déjà avant à Nazareth. C'est là qu'il avait eu l'inspiration de cette manière de vivre son christianisme. Mais tout le monde savait qui était Charles de Foucault. Son habit religieux parlait pour lui, bien sûr. Il n'était pas du tout dans l'ambiguïté concernant les doctrines. Et si vous lisez la biographie autorisée de Charles de Foucault, que je vous recommande, elle est de Pierre Sourisseau, qui est l'archiviste de la cause en canonisation. Pierre Sourisseau, Charles de Foucault, une biographie parue il y a 3 ans aux éditions Salvator. C'est remarquable. En tant qu'archiviste, il a eu à consulter tous les écrits de Charles de Foucault. Il y en a bien plus que dans les autres biographies qu'on avait pu lire auparavant. Et on voit bien que Charles de Foucault brûlait du désir d'annoncer l'évangile aux musulmans, de les convertir, bien sûr. Il y a des phrases du genre qui me reviennent comme ça. Les malheureux musulmans qui ne connaissent pas la vérité sur Jésus-Christ, vous voyez, et bien d'autres choses encore. Donc, il n'y a aucune ambiguïté dans la manière dont Charles de Foucault vivait son christianisme et pratiquait son apostolat. Alors, nous, eh bien, on en est venu à confondre enfouissement avec invisibilité. C'est incroyable. Donc, l'enfouissement égale, on n'a pas à se montrer. D'où, ben voilà, tant de tenues civiles dans le clergé, surtout, ne rien annoncer, ne pas se montrer, voyez, c'est quand même inouï. On doit ajouter à ça, qui a alimenté cette attitude, c'est nourri plutôt cette attitude, c'est le complexe post-colonial. Après la décolonisation, eh bien, la France en particulier, et y compris dans l'Église, on a été pris par ce complexe comme si, pendant la colonisation, alors qu'elle avait, la République française avait largement fait en sorte que les missionnaires, enfin, que le clergé présent en Algérie n'annonce pas l'Évangile aux musulmans, eh bien, c'est comme si on regrettait d'avoir opprimé les musulmans et donc l'islam durant la période coloniale. Je parle de l'Algérie, mais il y a d'autres situations comparables. Alors attention, il ne s'agit plus de critiquer l'islam, la religion du colonisé que nous avons fait tant souffrir. Vous voyez, c'est incroyable comment ce complexe post-colonial a marqué les esprits dans la société et dans le clergé. Je sais de quoi je parle parce que on m'a assez reproché dans les années 80 de ne pas tenir compte de ce complexe quand je me mettais à dire des choses que je pense être vraies sur l'islam. Alors, cette situation, l'invisibilité, les confusions, comme je l'ai mentionné, et puis ce complexe, ont donné lieu à des attitudes invraisemblables. Moi, par exemple, j'ai entendu des prêtres me dire « il faut répondre aux besoins d'islam des jeunes musulmans de France ». Un prêtre catholique qui vous dit ça. Il faut répondre aux besoins d'islam des jeunes musulmans. Certains m'ont dit aussi, mais puisqu'ils croient en Dieu, pourquoi est-ce qu'on va leur annoncer autre chose ? Mais on oublie que les musulmans ont le droit de connaître comment ils vont être sauvés, par qui ils vont être sauvés, vous voyez. Donc, il y aurait beaucoup d'exemples à donner dans ce domaine. Et puis, on a pris des initiatives aussi qui sont pleines d'ambiguïté. Je pense aux prières communes. C'est très embêtant. Moi, je me rappelle un souvenir. En 1996, j'étais invitée à Clermont-Ferrand pour le 1000e anniversaire de l'appel à la croisade. Alors, il y avait des chrétiens et des musulmans. L'évêque de l'époque était là. Bien sûr, nous avons eu une prière commune. Nous avons, nous, récité le Notre Père. Et puis après, les musulmans, on nous a dit, ils vont réciter leur Notre Père. Qu'est-ce que c'était leur Notre Père ? C'était la Fatiha que j'ai signalée au début. Mais bien sûr, dans l'ignorance la plus complète. Au même moment, j'étais restée 3-4 jours à Clermont. J'avais vu l'évêque en particulier. Et il m'avait dit, il y a des religieuses qui ont cédé leur église, leur chapelle, mais qui est séparée du couvent, en plein centre de la ville, pour en faire une mosquée. Alors j'y suis allée le vendredi à midi, à l'heure de la prière. Effectivement, l'église grande, repeinte en vert et blanc, grande mosquée de Clermont-Ferrand, au bout de la rue Sainte-Claire en plus. Bon. Et avec tous les musulmans qui allaient à la mosquée. J'en ai reparlé à l'évêque. Il m'a dit, ben, les religieuses ont cru faire acte de charité. Les musulmans n'avaient pas de lieu pour prier. Seulement maintenant, elles sont bien embêtées parce qu'elles ont besoin de cette chapelle et elles peuvent pas la reprendre, évidemment. Et des exemples comme ça, je suis témoin de bien d'autres encore. Donc, vous voyez comment les ambiguïtés se propagent comme ça, comment elles sont finalement presque permise, on dirait. Il faut faire vraiment, vraiment attention à ce genre d'attitude. Il y a un exemple tout récent, je crois que vous savez, dans une église des Hautes-Alpes, pour Noël, pas le dernier Noël, mais le Noël d'avant, le prêtre, le curé, pendant la messe de minuit, a fait monter à Lambon un responsable musulman pour lui demander de prier à la musulmane, bien sûr. Alors, il a prié en arabe, l'imam, et heureusement, il y avait des chrétiens irakiens qui sont réfugiés dans cette localité. Et bon, ils comprenaient très bien ce que l'imam disait. Ils ont été scandalisés, vous imaginez, enfin, bon. Voilà. Alors finalement, eh bien, avec tout ça, on trompe les musulmans et au lieu de les engager sur la voie de la vérité. Et donc, le résultat, c'est la perte de l'esprit missionnaire. Et voilà, on les prive de ce droit dont j'ai déjà parlé. Mais cela dit, après le Concile Vatican II, comme il y a eu des interprétations, des compréhensions plus ou moins erronées de ce concile, les papes, dans leur magistère officiel, ont multiplié les écrits pour montrer que, attention, l'ordre missionnaire de Jésus-Christ, il est toujours valable et qu'il ne faut pas du tout y renoncer. Encore 5 minutes ? Je vais vous citer quelques exemples. Voilà. Il y a eu d'abord, en 1975, peu de temps après le concile, enfin une dizaine d'années, Paul VI qui a réagi par une exhortation apostolique, Evangelii Nuntiandi, l'annonce de l'évangile. Et là, il est très clair, il dit que l'impératif missionnaire demeure actuel et que c'est un grave manquement de la part des catholiques d'y renoncer. Ensuite, voilà, Paul VI dénonce ce que je cite là. Il dénonce les alibis selon le Concile, qui peuvent nous détourner de l'évangélisation. Les plus insidieux de ces alibis sont certainement ceux pour lesquels on prétend trouver appui dans tel ou tel enseignement du Concile. Voyez. Ensuite, il y a eu la grande encyclique missionnaire de Jean-Paul II en 1990, Redemptoris Missio. Je le cite. L'un des motifs les plus graves du manque d'intérêt pour l'engagement missionnaire est une mentalité marquée par l'indifférentisme, malheureusement très répandue parmi les chrétiens, souvent fondée sur des conceptions théologiques inexactes et imprégnée d'un relativisme religieux qui porte à considérer que toutes les religions se valent. Et dans le même document, Jean-Paul II a lancé un appel très vigoureux au courage apostolique. Il disait « l'annonce a en permanence la priorité dans la mission ». Par la suite, deux dicastères romains, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, ont uni leurs efforts pour publier un document qui s'appelle « Dialogue et annonce ». Et dans ce document, on lit que l'annonce a la priorité dans le dialogue. C'est pas un dialogue pour le dialogue, si vous voulez. Ce n'est pas une fin en soi. Alors, Paul VI, dans la première encyclique de son pontificat, au début de son règne, en 1964, avait publié sa première encyclique, Ecclesiam Suam, son église. Très, très belle encyclique, très profonde, où il mentionne ce qu'est le dialogue. Paul VI parle du dialogue du salut. C'est, donc, il y a une perspective, il y a une visée au dialogue. Comme je l'ai dit, c'est pas une fin en soi. Alors, je vous fais part de la formule que je me suis faite à partir de là. Ce n'est pas un dialogue de salon que nous demande l'Église, mais un dialogue du salut. Vous voyez, le salon, c'est très bien. Prendre le thé à la menthe, oui, c'est une préparation, mais si on en reste là, ça ne va plus. Donc là, il faut vraiment revoir toutes nos catégories. Il y a une citation de Mgr Raffin, oui, l'ancien évêque de Metz, que j'ai bien connu, il est retiré en Alsace maintenant, en 1993, pendant le carême, il avait publié une lettre pastorale pour les fidèles de son diocèse de Metz. Voilà, c'était la démarche auprès des musulmans, le sujet de cette lettre magnifique. Mgr Raffin écrivait « Contrairement à des préjugés très répandus, y compris dans les milieux chrétiens, tous les musulmans ne sont pas a priori imperméables à l'annonce de la foi chrétienne. » Vous voyez, il est dommage qu'il n'y ait pas eu davantage d'évêques à cette époque-là pour parler de cette manière. Voilà, alors nous sommes interpellés par ces réalités, et aujourd'hui, alors que l'islam force nos portes, il faut bien dire que nous sommes dans un état de faiblesse à tous les niveaux, doctrinal, social, moral, bien sûr, la vertu a disparu, etc. Il nous faut vraiment revoir nos schémas, et je voudrais bien terminer en vous recommandant, enfin, je me le recommande à moi aussi, bien entendu, de prier Marie pour qu'elle intercède pour nous, que les musulmans s'ouvrent à la vérité et que nous aussi, nous les aidions à s'ouvrir à cette vérité, que nous renoncions à tous nos schémas erronés. J'ai publié tout récemment un article de fond sur la question de Marie et les musulmans. Cet article s'appelle « Marie, porche de l'espérance pour les musulmans ». Il est paru dans la revue Sedes Sapientiae. Nous avons ici deux religieux de la communauté de Chémery-le-Roi qui ont publié mon article dans leur excellente revue de spiritualité. Voilà, je crois que je dois arrêter là.